Un des aspects du mystère de la Sainte Messe, le sacrifice. Quand je vais prêcher en mission, je rappelle dans mon homélie les trois grands aspects du mystère de l'Eucharistie à ne pas négliger. Il faut les trois, comme un trépied. Le sacrifice, on est au calvaire. Le banquet, la communion, l'union intime avec Jésus. Et la présence réelle. Donc pour avoir toute la richesse et en vivre de manière féconde dans nos vies, il faut honorer, vivre, comprendre ces trois aspects du mystère de l'Eucharistie. S'il en manque un, vous voyez, ça risque de se casser la figure. Le trépied ne tient plus. Et cette dimension du sacrifice, on a du mal aujourd'hui. On n'en parle pas souvent. Très souvent, on réduit la messe à un repas convivial, fraternel. J'ai déjà eu des remarques quand j'étais en mission. « Mon père, vous avez parlé du sacrifice, bouh, mais ça va pas !» Le monde moderne a du mal avec l'idée de sacrifice. Benoît XVI disait que le grand danger de la foi catholique pour la messe, c'est une protestantisation de la messe. Et vous savez que les protestants ont évacué un peu la messe. Ils ne voulaient pas entendre parler du sacrifice de la messe. Et Jean-Paul II était bien conscient de cela. Il a dit qu'après le concile, dans la crise qui a suivi le concile Vatican II, il y avait parfois une compréhension très réductrice du mystère de l'Eucharistie qui était dans les cœurs et des intelligences des fidèles, et des prêtres aussi, on va le voir. Privé de sa valeur sacrificielle, le mystère de l'Eucharistie est vécu comme s'il n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une rencontre conviviale et fraternelle. Voilà ce que disait Jean-Paul II. Et donc je voudrais approfondir ce thème. Alors, on ne pourra pas tout faire, évidemment, en 45-50 minutes, mais on va approcher un peu ce mystère du sacrifice de l'Eucharistie. Alors, d'abord, donc, la mentalité moderne qui a envie de pas entendre parler du sacrifice. Tout ce qui touche à l'idée de sacrifice, d'expiation, de réparation, de satisfaction, rejeté par le monde moderne. Mais aussi, du coup, comme on est dans le monde, par les fidèles et aussi par les prêtres. Nous sommes, vous le savez bien, dans une société du bien-être, de la jouissance hédoniste. C'est pas nouveau. Je suis tombé sur un très beau texte d'un grand spirituel du 19e siècle, le père Monseigneur Charles Gay. On l'appelait le Saint François de Sales du 19e siècle. Et il n'est pas très connu, mais c'est prodigieux ce qu'il écrit. Et voilà, il s'adresse aux mères chrétiennes pour l'éducation des enfants. Et voilà ce qu'il dit. « Mesdames, exercez, habituez vos enfants à tout faire plier devant le devoir, le plaisir, l'intérêt, le bien-être. Je prononce là un mot usité et fatal, c'est le nom d'une des divinités contemporaines les plus populaires et les plus honorées. Je vous la dénonce. Préservez à tout prix vos enfants de l'idolâtrie du bien-être. » On est encore plein dedans. Idole, c'est une idole. Le bien-être, développement personnel. Il faut se trouver dans le bien-être. Ça, c'est une idole. C'est pas la foi de l'Église. Jésus qui va sur la croix. Et nous, le bien-être. Alors c'est rejeté, et c'est pour ça que c'est pas trop la faute des fidèles, c'est aussi rejeté par beaucoup de prêtres et de théologiens. On n'en veut pas, du sacrifice, de la réparation. Un grand théologien pourtant, le père Xavier Léon Dufour, dans les années 60-70, avait écrit ceci: « Le sacrifice, la satisfaction par Jésus qui expie nos fautes font partie de ces représentations peu acceptables qui se sont incrustées dans le catéchisme, dans nos imaginations d'enfants, et que l'on a indûment lié au dogme de la rédemption. » On ne veut pas du sacrifice. Alors on accuse Dieu de vouloir être assoiffé de sang, on va caricaturer ce mystère de Jésus qui s'offre au Père par amour. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas un Dieu assoiffé de sang, comme les dieux païens, hein, avec sacrifice d'enfants, etc. Je dois boire le sang. Non, c'est un grand mystère, évidemment, on va essayer d'approcher. Mais déjà, une première réponse de Saint Bernard de Clairvaux à tous ceux qui disent, mais c'est un Dieu fou, masochiste, doloriste, qui a soifé du sang. Voilà ce que dit Bernard. Le Père n'a pas requis le sang de son Fils, mais il l'a accepté quand il l'a offert. Il n'était pas avide de sang, mais de notre salut. Et aussi parce que le salut était dans le sang. Donc c'est le salut qui est désiré. C'est pas le sang pour lui-même, vous avez bien compris, hein. C'est pas du dolorisme. C'est l'amour, et on va le voir, qui est au cœur de cette notion du sacrifice. Mais ça, on peut le comprendre assez facilement, frères et sœurs, dans la vie de tous les jours. Quand on aime, on est prêt à souffrir pour ce qu'on aime. Oui ou non? D'ailleurs, on souffre, hein, avec ce qu'on aime. Ceux qui font, nous font le plus souffrir, hein, ceux qu'on aime le plus. Mais voilà, l'exemple que je prends très souvent, une maman qui accouche, elle souffre, elle fait une sorte de sacrifice, elle va verser son sang. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est doloriste, masochiste? Et puis si elle recommence pour en avoir un deuxième et un troisième, on va dire, mais elle est folle. Non, parce qu'elle aime. Elle aime, elle donne la vie. Alors voilà, notre société moderne a beaucoup de mal avec tout ça, parce qu'on est, comme dit une sociologue, hein, dans une sorte de déisme éthico-thérapeutique. Hein, on croit vaguement qu'il y a un bon Dieu, hein, déisme, on sait pas trop, il y a une force supérieure, éthico, on va mettre un peu de morale, hein, et puis thérapeutique, ah, il faut aller bien. Hein. Et ben cet esprit thérapeutique a largement conquis nos églises, frères et sœurs. Même dans les courants les plus traditionnels de l'Église, les plus conservateurs, très peu de chrétiens aujourd'hui acceptent, sont prêts à souffrir pour la foi, pour Jésus. Parce que cette société dans laquelle on vit, hein, thérapeutique, nous a formés. Hein, on est formés, qu'on le veuille ou non, hein, on est dans le monde. Hein, donc faut être vigilant, parce qu'on prend un peu les idées du monde, on est dedans, hein, donc ça nous touche, et puis on s'y réfléchit pas trop, on se laisse entraîner par cette mentalité. Hein, et cette société thérapeutique, donc, n'admet aucun bénéfice à la souffrance. C'est la pire chose qui puisse arriver. Au point que l'idée de supporter cette souffrance au nom de la vérité semble désormais ridicule. Vous voyez, c'est même plus une opposition, c'est cause toujours. Alors en fait, frères et sœurs, hein, c'est le manque d'amour et de vie intérieure, d'union au Christ qui nous fait avoir peut-être du mal à comprendre tout ça, hein, à rejeter cette idée du sacrifice rédempteur de Jésus. Une dernière cause pour expliquer cette difficulté avec la croix, avec la réparation, avec la satisfaction, c'est qu'on a perdu le sens du péché. Hein, notre conscience moderne est anesthésiée, hein, ce que disait Jean-Paul II, une sorte d'éclipse de la conscience, on ne se rend même plus compte du péché. C'est ça le drame, parce que si on ne se rend même plus compte, on ne va pas pouvoir s'en guérir. On a perdu le sens du péché. Pie XII, déjà, disait que c'était pour lui le mal du XXe siècle. Alors, on est maintenant au XXIe, ça continue sans doute. Hein, mais il disait, le péché du XXe siècle, c'est la perte du sens du péché. C'est ça, le péché, c'est qu'on voit même plus le péché. Mais le sacrifice de Jésus, eh bien, vient réparer le péché, précisément. Donc, c'est vrai que si on ne comprend plus le péché, ben, on ne comprend plus la croix. Et voilà, c'est lié, les deux sont absolument liés. Voilà ce que disait Saint Jean-Paul II dans une audience au Vatican en 1983. Le sacrifice expiatoire de la croix nous fait prendre conscience de la gravité du péché. C'est en regardant la croix qu'on voit la gravité du péché. Aux yeux de Dieu, le péché n'est jamais un fait sans importance. Nous, souvent, on dit « bon, c'est pas si grave ». Le Père aime infiniment tous les hommes et est profondément offensé par le péché, par la révolte, par la rébellion. Même s'il est tout de suite prêt à pardonner, dit Jean-Paul II, il exige pour le bien et l'honneur de l'homme une réparation. Mais ça se comprend, hein. Un couple qui se dispute, un époux qui blesse vulgairement son épouse, et inversement aussi, hein, ça peut arriver dans les deux sens, hein, on va se réconcilier, mais on va vouloir réparer. Hein, quand on a blessé quelqu'un, on va vouloir réparer, hein, faire un cadeau, voilà, faire un geste, un signe de réparation de la blessure qu'on a fait à celui qu'on aime. C'est la même logique. Hein, encore une fois, c'est pas du dolorisme sanguinolent, c'est l'amour qui veut ça, qui exige qu'on répare. Et donc, Jean-Paul II continue, mais c'est précisément ici que la générosité divine se manifeste de la manière la plus étonnante. Le Père donne à l'humanité son propre Fils pour offrir cette réparation. Il ne nous le demande pas à nous. Il va le faire lui-même. C'est de la folie, hein. Lui, il est parfaitement innocent, il n'avait pas à faire ça. Eh bien, il l'a fait pour nous, parce qu'il nous aime. Encore une fois, une maman, un papa est prêt à prendre la place de son fils malade pour qu'il vive. Hein? C'est ce qu'a fait Dieu. Il a pris ma place, votre place, sur la croix. Donc le Père donne à l'humanité son propre fils pour faire cette réparation. Il montre ainsi toute la gravité abyssale du péché, puisque ce péché exige la plus haute réparation possible, celle qui vient de son propre fils. Mais en même temps, sur la croix, il révèle l'infinie grandeur de son amour, puisqu'il est le premier, par le don de son Fils, à porter le fardeau de la réparation. Vous voyez ? C'est lui qui porte, pour moi. Alors après, il va m'inviter à rentrer dans cette logique, évidemment. Mais il a tout fait pour moi, par amour. Alors, après cette difficulté du monde moderne avec la réparation, la croix, le sacrifice, etc., on va essayer d'aborder le thème du sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? Alors c'est très riche, hein, j'ai essayé de creuser la chose chez saint Thomas d'Aquin, ce grand théologien de l'Église. J'ai pas tout pris, hein, parce que sinon il m'aurait fallu 10 heures. Hein, j'ai pris seulement un aspect, hein, du sacrifice, parce qu'il y a plein d'éléments. Alors saint Thomas n'invente rien, il reprend la tradition de l'Église. Hein, vous savez, dans l'Église, on n'invente jamais grand-chose. Il y a un développement, hein, du dogme, un approfondissement, comme un arbre qui se déploie. Hein, mais c'est pas autre chose, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Hein, et donc les saints se citent les uns les autres. Hein, et saint Thomas, il reprend le grand saint Augustin. Hein, 800 ans avant saint Thomas, on avait le grand saint Augustin qui avait déjà parlé de ce qu'est le sacrifice. Alors voilà, je cite. On appelle sacrifice au sens propre ce que l'on accomplit spécialement en l'honneur de Dieu pour être en amitié avec lui, pour recevoir sa bienveillance. Donc c'est quelque chose qu'on fait pour être en amitié avec Dieu. Un acte que l'on pose pour être ami. C'est l'amour, hein, pour être en relation d'amour avec Dieu. Et donc, saint Augustin, dans la Cité de Dieu, dit « Le véritable sacrifice est toute œuvre accomplie pour que nous soyons unis à Dieu dans une sainte société. » C'est-à-dire toute œuvre rapportée à la fin de ce bien suprême par lequel nous pouvons être véritablement heureux. Vous voyez, c'est large. Hein, c'est une première définition très large. Je ne vais pas approfondir beaucoup plus, hein, mais vous voyez, union à Dieu par l'amour. Un acte que l'on pose, union à Dieu par l'amour. Et pourquoi c'est douloureux aujourd'hui pour nous le sacrifice ? Parce que vous voyez, cette définition n'entraîne pas immédiatement la douleur, quand on pense à... Mais c'est parce qu'il y a le péché. Et que c'est douloureux maintenant, pour nous, il y a une conversion à faire pour être en véritable amitié avec Dieu. Ça se fait pas automatiquement. Voyez? Ça passe maintenant à cause de cet univers déchu, blessé par le péché. Ça passe par la souffrance. Hein, c'était pas dans le plan de Dieu, je vous le rappelle, ce que je dirais tout à l'heure dans la messe. C'était pas dans le plan de Dieu, cette souffrance. Mais à cause du péché, eh bien, on doit passer par là maintenant. Alors, l'étymologie peut nous éclairer aussi. Sacrifice, sacrum facere. Sacrum sacré, facere, faire. On fait le sacré. Qu'est-ce qui est sacré ? Mais c'est Dieu, c'est la sainteté divine. Et donc, dans son sens le plus profond, le sacrifice a pour but de faire sacré quelque chose, donc de transférer de notre monde au monde de Dieu cette chose, et donc nous en fait, de nous passer de ce monde, vous voyez, de nous diviniser, de nous transformer, de nous unir à Dieu. C'est ça que ça veut dire, sacrum facere. C'est ça l'essence du sacrifice. Alors, il y a à la fois un acte intérieur et un acte extérieur dans le sacrifice. Rappelez-vous, Caïn et Abel, tous deux vont offrir un sacrifice. Hein, dans les premiers temps, c'est en fait quand on étudie l'histoire de la religion, le sacrifice c'est dans toutes les religions. Hein, c'est anthropologique. On va offrir hein, pour comme signe d'amour des choses à Dieu, notre Créateur et notre Sauveur maintenant. Et donc il y a toujours un acte extérieur et un acte intérieur. Donc vous voyez, les deux font un acte extérieur. Hein, ils offrent. Hein, Caïn c'est les fruits de la terre et Abel c'est un agneau. Et il est dit que Dieu agrée le sacrifice de Caïn, d'Abel, pardon, et pas celui de Caïn. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, Caïn, il fait pas l'offrande. Vous voyez? L'intérieur est aussi important, voire peut-être même plus important que l'extérieur. Les deux doivent être unis, hein. Faut pas réduire simplement à l'intérieur, mais ça se manifeste à l'extérieur parce qu'on est des êtres sensibles. On est des êtres humains avec des choses sensibles à voir. Vous voyez, c'est le sens des sacrements. Il y a quelque chose de visible. Une liturgie, on est ensemble, il y a des choses qu'on voit, qu'on entend, hein, donc ça doit passer par là, parce qu'on est des êtres humains. Mais il faut qu'il y ait l'acte intérieur. Hein, si on participe à la messe en pensant complètement à autre chose et en n'aimant pas Jésus dans notre cœur, en étant en colère contre lui, bah, est-ce que le sacrifice qu'on offre à Dieu va être accepté? Difficilement, enfin, il va pas porter beaucoup de fruits, voyez. Hein, donc l'importance de notre intérieur, hein, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur contrit, humble, humilié. Voilà, l'intérieur est très important. Ça va se manifester à l'extérieur, évidemment. Donc, il y a deux choses, un acte extérieur et un acte intérieur. Les deux sont requis pour faire cette offrande, ce sacrifice à Dieu. Alors, voilà ce que dit le cardinal Journet, que je vais beaucoup citer, parce qu'il a écrit un très beau livre sur la messe. Hein. C'était un ami de Paul VI. Il a été créé cardinal. C'était un prêtre diocésain très brillant, très saint, très priant, ouais, très recueilli, et puis très intelligent. Il y avait les deux. Il n'y avait pas que l'intelligence, mais il y avait aussi la piété. Hein, il paraît que il était à Fribourg. Hein, il enseignait là-bas. Il voulait rentrer chez les dominicains, mais il avait une santé trop fragile. Donc, il n'a pas pu rentrer chez les dominicains. Il était prêtre au séminaire de Fribourg. Et ceux qui l'ont connu, puisqu'il est mort dans les années 80, 1980, donc il y en a qui l'ont connu, il raconte que il était très tôt à la chapelle et qu'on l'entendait pleurer, à genoux, allongé devant le tabernacle, pleurer d'amour devant son Seigneur et son Sauveur. Voilà ce qu'il dit. La passion du Christ qui a sauvé le monde, perdu depuis le premier péché, et instauré un univers de rédemption, est indissolublement un sacrifice et un acte d'amour. Il y a les deux. Sacrifice, acte d'amour. Un sacrifice, un acte cultuel, extérieur, une liturgie, mais en tant que enveloppant, donc l'acte extérieur, vous voyez, il va envelopper le plus pur et le plus intense acte d'amour qui soit jamais sorti d'un cœur humain, l'amour de Jésus. Vous voyez, donc la croix, c'est l'acte extérieur. Mais l'intérieur, l'amour de Jésus, on le voit pas. Enfin, si, on le voit extérieurement sur la croix, mais il y a un amour absolument fou qui est là. Vous voyez, le sacrifice enveloppe l'acte d'amour. Donc, un acte d'amour, mais en tant que enveloppé d'un sacrifice volontaire. Donc, vous comprenez que maintenant, déjà, on commence à parler d'amour dans le sacrifice et que ça va être central, absolument central. Si on fait des sacrifices de manière un peu extérieure et qu'on a mal compris et que faut que ça saigne, je sais pas quoi, on peut mal comprendre hein, le sacrifice. Eh ben, on fait fausse route. Hein, c'est l'amour. Encore journée. Donc, c'est deux actes, intérieur, extérieur. Liturgie, amour. Celui du sacrifice et celui de l'amour ne font qu'un, en fait. C'est les deux faces d'une même pièce. Vivez donc dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice. Voyez ce que dit saint Paul. Nous a aimés, amour, et s'offrant en sacrifice. Il y a les deux. Comme un parfum d'agréable odeur. Alors, avec cette image du parfum, sainte Catherine de Sienne a une très belle méditation. Elle dit, on ne présente pas l'eau du parfum seule, ni le vase seul. Le vase, c'est le sacrifice. L'eau du parfum, c'est l'amour. Les deux, ici-bas, sont inséparables. Donc ça, c'est pour ici-bas. Voyez ce que dit saint Paul, encore lui. « J'aurais beau me faire brûler vif, sacrifice. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Voyez, c'est l'amour qui fait tout. Et donc, un jour, dit le cardinal Journet, le vase va se briser. La dimension sacrifice va se briser. Le sacrifice ne franchira pas le seuil de la patrie, du ciel. Il n'y aura pas de temple dans la cité sainte, dit l'Apocalypse. Il n'y a pas de temple. Pourquoi ? Parce que le temple, c'est l'agneau. C'est le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Mais le contenu, vous voyez, le vase n'entrera pas, mais le contenu, oui. Saint Paul encore, la charité ne passe jamais. Hein, donc cette belle image du vase pour nous faire comprendre ce qu'est le sacrifice. Alors on a approché très succinctement ce mystère du sacrifice, il faut que je bosse encore parce que c'est une richesse incroyable. Et donc on s'approche maintenant de la messe comme sacrifice pour bien comprendre, parce que ça peut être mal compris encore une fois. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de vous expliquer. La messe est vraiment un sacrifice, mais on va préciser. Saint Jean-Paul II, dans son document sur l'Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, au numéro 13, en vertu de son rapport étroit avec le sacrifice du Golgotha. L'Eucharistie est un sacrifice au sens propre. Pas seulement au sens générique, comme s'il s'agissait d'une simple offrande que le Christ fait de lui-même en nourriture spirituelle pour les fidèles. Non. Et la clé, voyez, c'est le rapport étroit au sacrifice du Golgotha du Calvaire. Donc c'est ça qu'on va approfondir maintenant. La messe, en fait, c'est l'actualisation du sacrifice de la croix d'il y a 2000 ans. C'est pas un autre sacrifice. On ne retue pas Jésus. C'est l'unique sacrifice d'il y a 2000 ans qui est rendu présent. Actualisation de l'unique sacrifice de la croix. Parce que les protestants, ils nous ont reproché en disant « Mais c'est pas un sacrifice, la messe !» Sinon, ça veut dire que la croix, c'est pas, elle n'a pas réussi à tout faire. Mais c'est qu'ils n'ont pas compris l'explication. On ne dit pas que c'est un autre. On dit que c'est celui-là, mais qui est présenté aujourd'hui par le mystère de la liturgie, de la messe. Alors, quelques citations de grands théologiens, pour commencer, sur cette messe actualisation du sacrifice de la croix. Un grand théologien du XVIe siècle, Thomas d'Evio, un dominicain, souvent les dominicains, c'est un grand théologien. Une unique hostie, offerte une seule fois sur la croix, ok, qui persévère par la répétition quotidienne du rite institué par le Christ dans l'Eucharistie. Donc la messe est célébrée non pas pour ajouter quelque chose à l'offrande de la croix, parce qu'elle est parfaite l'offrande de la croix, On est d'accord avec les protestants là-dessus. Ils ont raison. La croix, il a tout fait sur la croix, Jésus. On va pas faire autre chose en plus. Donc la messe est célébrée non pour rien ajouter à l'offrande de la croix, mais comme le véhicule de la rémission des péchés opérée par le Christ sur la croix. Vous voyez, c'est pour le véhicule qui va nous le transporter la croix jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, par la messe. Pour que ça nous touche, nous, aujourd'hui. Parce que vous y étiez pas il y a 2000 ans, si? Ou alors vous êtes doués, Vous avez une bonne santé. Personne n'était là il y a 2000 ans. Alors comment je fais pour avoir les fruits de la croix, moi? Pour être au pied de la croix, comme Marie, comme Jean? C'est la messe. C'est le véhicule par la toute-puissance divine qui nous apporte la croix. Quelle merveille, Un autre théologien du même siècle, il s'appelle Melchior Cano. Bien que l'offrande externe sanglante soit passée, effectivement, c'est il y a 2000 et quelques années. Cependant, elle demeure dans l'éternité divine, dans l'acceptation de Dieu. Et elle garde perpétuellement, parce que Dieu est au-dessus du temps, perpétuellement sa valeur, sa vertu, sa force. En sorte qu'elle n'est pas moins efficace aujourd'hui, devant le Père, qu'au jour où le Christ avait versé son sang sur la croix. Ça continue aujourd'hui, vous voyez. C'est la même offrande, l'unique offrande qui est là parmi nous. Nous offrons donc le Christ à la messe, avec le Christ, l'hostie même de la croix, dit le théologien. Jésus de la croix. Tout comme ceux qui se tenaient au pied de la croix, comme Marie, comme Jean. Un autre théologien, Bossuet, hein, l'évêque de Meaux, grand penseur spirituel, ce n'est pas ici un supplément au sacrifice de la croix. Vous voyez, j'insiste, mais c'est pour qu'on bien comprenne bien. Hein. On rajoute rien. Ce n'en est pas une réitération comme s'il était imparfait. C'en est au contraire, en le supposant très parfait, une application perpétuelle, une célébration continuée. Donc vous voyez, le rachat que Dieu fait sur la croix, il n'atteint pas aussitôt par lui-même tous les hommes. Il faut qu'il y ait un contact concret avec chacun. C'est ça l'essence de la messe. C'est pour que la croix qui a sauvé puisse me toucher moi à Toulon, à la Loubière, dans la salle Saint-Paul, en 2024. Merveille d'invention de Dieu de me mettre en contact avec la croix. C'est ce que dit le pape Pie XII dans un beau document sur la messe, hein, Mediator Dei. Pour que les âmes des hommes puissent être vraiment rédemptées, sauvées, et le salut, pour toutes les générations, il faut que se réalise cet contact avec la croix. Absolument que chaque homme en particulier entre en contact vital avec le sacrifice de la croix, et donc avec les mérites de l'amour qui en découle, et que ce nous soit transmis. Et donc, Pie XII dit, on peut dire d'une certaine manière que le calvaire du Christ, sur le calvaire, le Christ a établi une piscine d'expiation, de salut, qu'il a remplie de son sang répandu. Hein, c'est infini, parce qu'il est Dieu. Mais si les hommes ne se plongent pas dans ces eaux, dans cette piscine, et ne s'y lavent pas les taches de leurs fautes, ils ne peuvent assurément obtenir purification et salut. Encore une belle image, hein. J'espère que vous comprenez, hein. Actualisation de l'unique sacrifice de la croix. Alors, si on va voir le catéchisme, hein, j'ai fait des petites recherches, on peut aller vite, hein, pour calculer le nombre d'occurrences du mot sacrifice ou sacrificiel dans le catéchisme. Ça doit faire 6-7 pages sur l'Eucharistie, il y a 6-7 pages ou 8, enfin, c'est pas immense. 70 fois. 70. Alors, voyez, on peut pas dire que l'Église a arrêté de concevoir l'Eucharistie comme un sacrifice. C'est central, je vous rappelle, hein, les trois piliers. Sacrifice, communion, présence. Alors, le catéchisme confirme tout ce que viennent dire les théologiens, mais c'est bien parce que c'est mieux le catéchisme encore que les théologiens, parce que c'est le magistère, c'est l'Église qui nous enseigne, comme une maman, hein, qui nous communique la vérité. Ce sacrement est appelé Saint Sacrifice parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur. Voyez? Même chose. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. C'est prodigieux, hein? Elle devient présente. Cachée, évidemment, sous les apparences non sanglantes. Hein, l'enveloppe a changé quand même. Hein, donc, il n'y a plus le sang qui est répandu, hein? C'est un rite non sanglant. Donc, le rite doux, c'est une douceur du rite de l'Eucharistie, c'est doux. Hein, on voit pas Jésus verser son sang sur la croix. Donc, le rituel, la liturgie enveloppe, porte le sacrifice sanglant. Alors, le caractère sacrificiel de la messe, on le tire des paroles de la Bible, hein, de Jésus lui-même dans l'Évangile. Hein, « Ceci est mon corps qui va être donné ». Sacrifice, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Donc Jésus parle d'un sacrifice, hein, du don de sa vie. Encore le catéchisme, l'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente ou rend présent le sacrifice de la croix. Hein, j'insiste, l'unique sacrifice de la croix rendu présent par la messe. Et encore une fois, le catéchisme, dernière citation, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Alors, maintenant, on va essayer de tirer des conséquences pratiques pour notre vie. Hein, parce que tout ce qu'a fait Jésus, il faut entrer en contact vital, comme disait Pie XII, avec ce merveilleux don de son amour sur la croix. Et donc, comment vivre cet aspect du sacrifice dans ma vie de tous les jours ? Alors, si vous avez bien compris, hein, la croix, c'est devenu comme un lieu de passage de toute la prière des hommes avec celle du Christ. Hein. Il prend toutes nos prières, le Christ, et il les unit à la sienne, son offrande, et ça passe par la croix et ça monte vers le Père. Donc ça, c'est la partie ascendante. Hein. Toute la prière, la douleur, la souffrance, toutes nos vies, tout ce qu'on est, on offre, on se met avec Jésus qui se donne au Père. Et le Père voit Jésus, il dit « Ah bah oui, j'accepte, quel amour !» Et puis ça, c'est la partie montante, ascendante, et il y a une partie descendante, hein, la bénédiction, la grâce de Dieu qui descend. Et tout ça, en fait, ça passe par un point unique qui est la croix. Et donc, la messe, si vous avez bien compris que la messe, c'est la croix actualisée. Donc, il va falloir, frères et sœurs, vivre cette spiritualité de la croix dans ma vie. Encore une fois, vous avez bien compris, c'est pas du dolorisme. Il faut pas, c'est pas Rambo, hein. Faut que ça saigne. Faut que j'en bave. Non, c'est pas ça. Mais vivre l'amour, apprendre à aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est ce que disait Mère Teresa. Ça, je vous le dis, j'y arrive pas encore. Hein. Hein, quand ça fait mal, j'ai du mal à aimer, hein. Vous aussi? Cool, on est dans le même club. Mais je suis le président de l'association. Hein, mais voilà, déjà de comprendre et de savoir, ça nous aide petit à petit hein, à ne pas nous révolter devant nos croix, nos souffrances, nos difficultés, nos contrariétés, nos contradictions, parce qu'on en a tous plein. Oui ou non ? Bon, ça va, vous êtes normaux. Hein, de pas se révolter, mais d'apprendre. Alors, c'est un long processus. Hein. Moi, je balbutie, j'essaie d'apprendre, mais j'y arrive pas bien. Hein. Priez pour moi. Parce que nous, les prêtres, on doit peut-être encore plus, peut-être encore plus, vous voyez, comme Jésus, quoi, vous voyez, pour montrer l'exemple et pour vous aider. Donc, voilà, c'est du boulot. Donc, acceptation de la dimension de la croix dans ma vie. En fait, on n'a pas vraiment le choix, frères et sœurs, parce que de toute façon, on galère. Hein. Donc, et si on râle, est-ce que ça change la situation ? Ça l'empire. Il y en a qui ont l'expérience. Hein. Ça l'empire. Mais oui, c'est le paradoxe. Hein. Plus on se révolte, plus on dit non, plus elle est lourde. Et plus on dit oui, ah, ça devient léger. Je suis porté par la croix. C'est plus moi qui porte, c'est elle qui me porte. Ah, mais pour ça, il faut faire quelques lifting. Hein, pour entrer dans cette logique, c'est pas évident. Alors, saint Augustin, déjà, disait ça, hein, qu'il n'y a pas d'autre chemin dans notre vie hein, pour aller à Dieu. Hein, vivre ce mystère de la croix, qui va être aussi mystérieusement un mystère de la joie. Parce que quand on accepte, on trouve la paix, la sérénité et même la joie au cœur de l'épreuve. C'est un grand mystère. Ça peut prendre des années de lutte. Hein. Vous savez, Job, il s'est battu avec le bon Dieu. Hein. Les patriarches, hein, Jacob, il s'est battu. On a du mal, hein, et on va se battre parfois des années avant de rendre les armes. Bon, d'accord, Jésus, j'accepte. Hein, d'abord, cette révolte. Non, je sors d'un... Après, on va négocier. Alors, d'accord, mais alors, quand même, tu me donnes ça, quand même. Hein, négociation. Et puis après, acceptation. Ah, ok, Seigneur, je sais que tu es là. Hein, c'est pas pour mon mal que je vis ça. C'est pour mon bien. C'est pour la vie. Pour la vie éternelle. Et donc, vous voyez, si on prêche pas la croix, eh ben, on vous aide pas, parce qu'on a des croix. Donc, il faut prêcher la croix. Hein. C'est encore une fois, c'est pas du dolorisme, c'est pour apprendre à aimer et vivre cet amour. Alors, saint Augustin, donc, dit Merveilleux, Augustin, c'est prodigieux. Hein. C'est dans son traité sur Saint Jean. Pour qu'il y eût un chemin à suivre, celui vers lequel nous voulions aller est venu de là-bas vers nous. Beau, hein? On veut aller vers Dieu, bah c'est lui qui vient. D'abord, parce qu'on ne peut pas y aller, en fait, sans lui. On ne peut pas, on est perdu. Hein, rappelez-vous, après le péché, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Et Dieu cherche. Où es-tu? Il vient vers Adam. Il vient vers nous. Il nous cherche. Donc, pour qu'il y eût un chemin à suivre, celui vers lequel nous voulions aller est venu là-bas vers nous, de là-bas vers nous. Qu'a-t-il fait? Il a disposé un bois pour nous faire traverser la mer de ce siècle. Nul ne peut traverser la mer de ce siècle que flottant sur la croix du Christ. Pour passer à la patrie, il faut être porté par le bois. Donc laisse-toi porter par le bois. Crois au crucifié et tu pourras parvenir à la patrie. Hein, donc c'est l'autoroute en fait. Hein. Y a que, c'est ça, hein, y a que ce chemin-là. Hein. Ah, y a le péage, oui. Bonne remarque. Et puis c'est cher hein, le péage. Hein. Aussi cher que l'essence. Alors comment concrètement dans ma vie tout ça va pouvoir se mettre en place? Donc vous voyez, cette dimension d'acceptation, ça c'est le Seigneur qui travaille votre cœur et c'est à vous de faire ce chemin avec lui. Hein, mais l'un des signes, c'est que on va vouloir vivre ça un peu pour pas simplement pour nous, mais aussi pour les autres. Vous voyez, parce qu'on aime des personnes autour de nous qui souffrent, qui connaissent peut-être pas le Seigneur, qui sont loin de lui. Et bien, on va vouloir qu'elles s'approchent de ce Sauveur merveilleux. Et donc, on va un peu vivre nos souffrances en union avec celles de Jésus pour sauver les âmes, comme Jésus, s'unir à son unique sacrifice. Nos petits sacrifices, nos petites souffrances, ou grandes, unies à celles de Jésus qui est immense, infinie. Et donc, faire de la rédemption, aider Jésus à sauver les âmes. On peut le faire. C'est merveilleux. Quel privilège, quel cadeau. Je peux sauver des âmes en unissant mes souffrances, ma croix de ma vie à celle de Jésus. Là, ça porte un fruit incroyable, même si on ne le voit pas. Même si on ne le voit pas. Petit témoignage de Élisabeth Le Sœur. Avez-vous entendu parler de cette sainte femme? Hein, très pieuse, grande amoureuse de Jésus, mariée avec un athée. Mais elle l'aimait beaucoup, hein. C'était son mari qu'elle aimait beaucoup, mais elle souffrait de son absence totale de foi. Et elle a joué le jeu de pas trop l'embêter tous les jours non plus avec ça. Vous voyez, mais de prier et de souffrir pour lui, d'offrir à Jésus, lui rappeler, hein, lui témoigner de temps en temps, évidemment, mais elle rabâchait pas, vous voyez, parce que ça peut être contre-productif, ça aussi. Hein. Donc, elle a prié, elle a souffert pour lui, elle a offert toutes ses contradictions, et elle a écrit un petit journal, enfin un journal intime, vous voyez, où elle parle de son expérience spirituelle, de sa vie, de ses difficultés, de ses souffrances, de son amour hein, pour son mari, qu'elle aimait vraiment authentiquement. Et elle a prié pour sa conversion, parce qu'elle savait qu'il faut être converti pour aller au ciel, hein, connaître le Christ, être mis en contact avec cette croix qui sauve. Et elle est morte d'un cancer assez rapidement. Elle avait 50 et quelques ou 60, enfin, relativement jeune encore. Et son mari n'était pas converti. Mais, après les obsèques, il trouve dans sa chambre, de sa bien-aimée, ce journal qu'il lit. Il fond en larmes. Il se convertit. Il reçoit le baptême. Il rentre dans les ordres et devient prêtre dominicain. Après sa mort, elle l'a pas vu. Donc, vous voyez? On voit pas, et c'est pas pour ça que le Seigneur il bosse pas. Il a son plan. Élisabeth Le Sœur, L-E-S-E-U-R. Vous pouvez trouver ce journal hein, sur Internet, acheter ce livre. C'est très beau, très très beau. Vous voyez, elle avait la foi, elle savait que tout ce qu'elle faisait par amour, c'était dans le cœur de Dieu, et c'est au temps de Dieu. Même si j'ai pas vu sur la terre, Dieu y fait. Même si je vois pas les fruits, on sait pas ce qui se passe dans le cœur des âmes que nous aimons. Même si extérieurement, peut-être, il n'y a pas de changement, le Seigneur, peut-être, est en train de travailler, de changer le cœur, de sauver. Hein, donc, confiance et espérance que tout ce que l'on fait, c'est dans le cœur de Dieu. Il ne méprise pas la prière du juste. Elle a beaucoup de poids sur son cœur. Donc, l'amour des âmes. Alors, plus on aime le Seigneur, les amis, normalement, plus on a un amour des âmes. Les deux sont liés, hein, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et l'amour des âmes, c'est vouloir qu'elles aillent au ciel, hein. C'est ça la véritable charité. C'est vouloir qu'elles soient sauvées, qu'elles connaissent Jésus, qu'elles soient heureuses pour l'éternité dans la vision de Dieu avec nous. Parce que normalement, on n'est pas trop égoïste quand on est catholique. Enfin, si, on reste égoïste, hein. Malheureusement, à cause du péché. Hein, vous vous souvenez du film Des bronzés font du ski? Oui? Eh bien, il y a un moment, c'est Gérard Jugnot, il s'appelle Bernard dans le film, et puis il doit montrer comment faire les virages au ski. Et le moniteur, il interroge tous les amis de Bernard qui sont en train de skier avec lui, qui le regardaient faire. Il dit, alors c'est quoi le principal défaut de Bernard? Tout le monde en chœur, il est égoïste! Alors qu'ils n'attendaient pas ça. Ils attendaient le niveau de ski, quoi, voyez? Le cri du cœur, quoi. Égoïste. Bon, Bernard, c'est vous et c'est moi. Hein? Malheureusement. Mais, avec la grâce, avec la fidélité au Christ, eh bien, petit à petit, hein, on va aimer le prochain. Et l'aimer, c'est pas du sentimentalisme, hein. Précisément, on va être capable de souffrir pour lui, d'offrir ses souffrances pour son salut, pour qu'il connaisse Jésus et qu'il aille au ciel. Donc c'est la grande doctrine du Carmel, hein, qui nous rappelle ce lien intime entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je vous rappelle que même si on est purement contemplatif, eh bien on travaille pour le salut des âmes, hein. Le salut des âmes, c'est tout le monde qui bosse pour eux, hein. C'est pas simplement les gens dans le monde qui sont actifs, les gens cachés qui prient, qui souffrent. Les malades sur leur lit de mort, ils sauvent des âmes. Hein, tout le monde participe. Pas que les actifs, les contemplatifs aussi. Hein, Thérèse d'Avila avait dit, mes sœurs, vous êtes rentrées pour sauver les âmes au Carmel. Alors qu'elles n'allaient jamais voir de personne. Hein. Et puis Thérèse de Lisieux, patronne des missions. Cloîtrée. A jamais évangélisé quelqu'un au sens où on l'entend, vous voyez, elle n'a pas parlé à des gens en disant, ah, Jésus, tu connais? Patronne des missions. Avec Saint François-Xavier, le grand jésuite, hein, qui a baptisé l'Asie, mais elle est patronne aussi. Et docteur. Donc voilà ce que dit Saint Jean de la Croix. Je crois que c'est un peu cité par un autre carme plus récent. Je crois que c'est le père Élisée des Martyrs. Voilà son nom. C'est une vérité évidente que la compassion pour le prochain croît, grandit. D'autant plus que l'âme s'unit davantage à Dieu par amour. Donc plus nous nous unissons à Dieu par amour, plus grandit notre amour pour le prochain. Donc vous voyez encore une fois, vouloir aimer le prochain sans le bon Dieu, c'est se faire illusion. Parce que c'est notre union à l'amour infini parfait de Dieu qui va communiquer à notre cœur, qui va l'enflammer pour un amour véritable pour les autres. Car plus elle aime, l'âme, plus elle désire que ce même Dieu soit aimé et honoré de tous les hommes. Et plus elle le désire, plus elle y travaille, aussi bien dans l'oraison, donc dans la prière, que par tous les autres moyens nécessaires qui lui sont possibles. Vous voyez, l'oraison, la prière, l'adoration, c'est une œuvre d'apostolat. On est en train de sauver quand on prie. On ne se tourne pas les pouces. C'est une activité. Alors oui, c'est caché en Dieu. Mais oui, il y a les moyens extérieurs, le catéchisme, l'évangélisation, tout ça, le service des pauvres, des malades, bien sûr. Mais déjà, quand on prie, on est déjà en activité pour le salut. On fait du bien aux âmes. Et en ceux qui sont ainsi possédés par Dieu, la ferveur et la force de leur charité sont telles qu'ils ne peuvent se rétrécir, ni se contenter de leur propre et seul profit. Mais plutôt, comme il leur paraît peu d'aller au ciel seul, ils cherchent avec angoisse, avec un amour tout céleste et des diligences exquises à emmener au ciel avec eux un grand nombre d'âmes. Paraît que Padre Pio, c'est par dizaines de milliers, hein, qu'il a pris des âmes aux démons pour les emmener au ciel, hein. Nous, si on en a déjà une, on sera content. Non, il faut plus. Alors la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez bien, hein, cette belle phrase avec l'épingle, hein, que je vais reprendre, c'est une lettre qu'elle écrit à Léonie, sa sœur. Hein, vous savez que chez les Martins, on est plutôt doué en sainteté. Hein. Toute la famille, pouf, impressionnant. Hein. Parce que que Léonie, qui a eu du mal, hein, vous savez qu'elle a voulu rentrer 3 fois dans les ordres et ça n'a pas marché. Et donc, c'était dur, une vraie épreuve. Hein, elle pensait, voilà, elle s'est trompée, enfin, la première ordre ne convenait pas, elle est ressortie, elle est rentrée, ça n'a pas marché, elle fait quelques mois. Et la troisième fois, elle rentre et elle a dit, cette fois-ci, je sortirai entourée de planches. Quand je serai morte. C'est-à-dire, je resterai jusqu'au bout. Hein, elle a eu cette grâce. Et donc, Thérèse écrit à sa petite sœur, sa grande sœur, pardon, oui. C'est la dernière, Thérèse. C'est ça, hein, c'est la dernière. Oui. Alors voilà ce qu'elle dit. Blessons Jésus par notre œil et par un seul cheveu, c'est-à-dire par la grande chose et par la plus petite. Donc, tous nos petits riens pour Thérèse, et ça, elle va nous aider. Parce qu'il y a des petits riens de notre vie qui peuvent se transformer en trésors pour le ciel. Ne lui refusons pas le moindre sacrifice. Tout est si grand dans la foi, en religion. Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. Quel mystère. Vous voyez, c'est, parfois, on pourrait râler à ramasser une épingle. Hein. Vous voyez la scène, non? Il n'y a pas que les épingles, hein, il y a d'autres choses. Hein. Et on bricole, on se tape le pouce avec le marteau. Seigneur, pour mon frère, pour mon époux, pour mon épouse. Hein, il y a plein de petits riens de la vie qu'on peut unir à Jésus et sauver des âmes. Et pour terminer, vivre ses croix, cette acceptation du mystère de la croix dans nos vies avec la très sainte Vierge Marie. Parce que Marie, elle a eu le cœur transpercé par le glaive, vous savez bien, hein, c'est sa passion à elle. Elle a aimé, après Jésus, le plus sur cette terre. Elle ne sera jamais dépassée. Et elle sait ce que c'est la croix, parce qu'elle était au pied de son Fils mourant, et de son Dieu mourant, par amour. On raconte que Sainte Thérèse d'Avila a eu une vision du matin de la résurrection où Jésus est allé voir sa maman. Hein, pour la tradition, pour beaucoup de personnes pieuses et saintes, même si ce n'est pas l'enseignement officiel de l'Église, la première personne que Jésus est allé voir après sa résurrection, c'est sa maman. Ça se comprend. Hein. Là, bah, avant Marie-Madeleine. Il est allé voir, vous voyez, mais les évangiles ne le disent pas. Mais toute la tradition, enfin, beaucoup de personnes saintes et pieuses ont dit, c'est elle qui est allée voir en premier, sa maman. Hein? Et alors, dans la vision de Thérèse d'Avila, Marie est prostrée, non pas par manque de foi ou par désespoir, non, par la douleur. Simplement par la douleur. Elle est comme un peu chaos, vous voyez, tellement elle a vécu avec Jésus cet amour fou sur la croix, qu'elle est un peu chaos, prostrée, et Jésus s'approche, et il est obligé un peu de la secouer pour dire « Maman, c'est moi hein? !» Marie, au pied de la croix, qui sait ce que c'est que la souffrance, et qui peut nous aider, comme une bonne mère, hein, à vivre nos croix. Donc voilà, debout, au pied de la croix, se tenait sa mère, dit l'évangile de Jean. Et un glaive lui transperça le cœur, avait dit Saint Luc, hein, au moment de la présentation, avec la prophétie. Donc, voyez, on peut relier les deux. La réalité du sacrifice sur la croix et le cœur de la mère transpercé par l'épée de douleur. Hein, c'est complètement dépendant. C'est là qu'elle a été transpercée, Marie. C'est à ce moment-là. Et donc, l'Église a toujours vu un lien profond entre ces deux éléments. Hein, le cœur immaculé transpercé de Marie et le sacrifice de la croix. Alors le pape Jean-Paul II déclare que Marie, puisqu'elle a été associée de manière unique au Christ dans l'événement salvateur, le sacrifice de la croix, elle est également présente à la messe. Si vous avez bien compris que la messe c'est la croix rendue présente, la Marie est là, elle est associée de manière particulièrement étroite au sacrifice de la croix. On avait demandé au padre Pio, vous savez, quand il célébrait sa messe, qu'il voyait, ben, il voyait un peu le monde invisible que nous ne voyons pas, hein, les saints, les anges. Et alors quelqu'un lui dit, est-ce que Marie est là? Et il répond, parce qu'il était un peu bourru, hein, Padre Pio, il secouait un peu, je crois, dans ses réponses. Hein. Une mère peut-elle être indifférente au sacrifice de son fils? Non, elle est là, Marie, à chaque messe. Voilà ce que dit donc Jean-Paul II. Marie est à chaque autel où est célébré le mémorial de la Passion et de la Résurrection parce qu'elle a été présente, fidèle de tout son être au dessein du Père. Ainsi, chaque messe nous met en communion intime avec elle, la Mère, dont le sacrifice devient présent, comme le sacrifice de son Fils devient présent aux paroles de la consécration. Donc, pensons-y, Marie est là au pied de la croix et elle sait vivre ce mystère.